Les conséquences d'un désastre. Coup sur coup, deuil sur deuil. Ah, l'épreuve redouble. Victor Hugo, L'année terrible. On a bien raison de dire qu'un malheur ne vient jamais seul. Ce fut Lacry qui, plus tard, formula cet aphorisme dont il n'était pas l'auteur. Quand le braque sacrant et vociférant contre ses peigne-culs de Vélran arriva, cheveux, chemise et le reste au vent à la boucle du chemin de la Saute, ce ne fut pas les compagnes qu'il trouva pour le recevoir, mais bien le père Zéphirin, vieux soldat d'Afrique qu'on appelait plus communément Bédouin, et qui remplissait dans la commune les modestes fonctions de garde champêtre, ce qui se voyait d'ailleurs à sa plaque jaune bien astiquée, luisant parmi les plis de sa blouse bleue toujours propre. De bonne heure pour le grand Lebraque, Bédouin, représentant de la force publique à Longeverne, était un peu sourd et n'y voyait plus très bien. Il avait, revenant de sa tournée quotidienne ou presque, été arrêté par les hurlements et les cris de guerre de Lebraque se débattant aux mains des Vélerans. Comme il se trouvait, par hasard, qu'il avait déjà été victime de farces et plaisanteries de la part de certains galapias du village, il ne douta ni que les invectives virulentes de celui-là fuyant, autant dire à poil, ne fussent à son adresse. Il en douta de moins en moins quand il distingua, entre autres, les syllabes de cochon et de salaud qui, dans sa pensée droite et logique, ne pouvaient indubitablement s'appliquer qu'à un représentant de la loi. Résolu, le devoir avant tout, à punir cet insolent qui attentait du même coup aux bonnes mœurs et à sa dignité de magistrat, il s'élança à sa poursuite pour le rattraper, ou tout au moins le reconnaître et lui faire donner par qui de droit la fessée qu'il jugeait méritée. Mais Lebraque vit Bédouin lui aussi, et, reconnaissant des intentions hostiles au « polisson » qu'il poussa, il biaisa vivement à gauche vers le haut du communal et disparut dans les buissons pendant que l'autre, brandissant son bâton, criait toujours de toute sa gorge. « Petit saligaud, que je t'attrape un peu !» Caché dans le grand buisson, ahuri de cette apparition inattendue, les Longevernes suivaient la poursuite de Bédouin avec des yeux ronds comme des prunelles de chouette. « C'est lui ! C'est bien lui !» fit la crique parlant de son chef. « Il leur y a encore joué un tour !» remarqua Tintin. « Quel bougre tout de même !» et l'inflexion de sa voix disait toute l'admiration qu'il professait pour son général. « Ce vieux con va-t-il nous emmerder longtemps ?» reprit Camus, frottant de ses pommes sèches et calleuses ses douloureuses meurtrissures. Et il songeait déjà à déléguer Tintin ou la crique pour attirer Bédouin hors des lieux où devait se cacher Lebraque, en poussant à l'adresse du garde quelques séries d'épithètes colorées et fortes, telles « vieille tourte, enfifrée, sodomis, vérolard d'Afrique » et autres qu'il avait retenues au passage de certaines conversations entre les anciens du village. Il n'en fut pas réduit à cet expédient, car le vieux Briscard redescendit bientôt le chemin, jurant contre ses garnements à qui il tirerait les oreilles et qu'il foutrait bien un jour ou l'autre à l'oustreau communal pour tenir compagnie, durant une heure ou deux, au rat de la fromagerie. Immédiatement, Camus imita le tirouit de la perdrix grise, signal de ralliement de Longeverne. Et, à la réponse qui lui vint, signala par trois nouveaux cris consécutifs à son féal aux abois que tout danger était momentanément écarté. Bientôt, derrière les buissons, on aperçut, s'approchant en effet, la silhouette indécise d'abord et blanche de Lebraque, son petit baluchon à la main, puis se distinguèrent les traits de sa face contractée de colère. « Ben, mon vieux ! Ben, ma vieille !» Ce fut tout ce que peut dire Camus qui, les larmes aux yeux et les dents serrées, brandit un poing menaçant dans la direction de Vélran. Et Lebraque fut entouré. Toutes les ficelles et toutes les épingles de la bande furent réquisitionnées afin de lui refaire une tenue tant qu'à peu près présentable pour rentrer au village. À un soulier, on mit de la ficelle de fouet, à l'autre de la ficelle de pain de sucre prise à une garde d'épée. Des morceaux de tresse serrèrent les bas aux jarrets. On trouva une épingle de nourrice pour rejoindre et maintenir les deux ouvertures du pantalon. Camus même, ivre de sacrifice, voulait défaire sa fronde à la stique pour en fabriquer une ceinture à son chef. Mais l'autre noblement s'y opposa. Quelques épines bouchèrent les plus gros trous. La blouse, ma foi, pendait bien un peu en arrière. la chemise irrémédiablement baillée à la cotisse, et la manche déchirée dont manquait le morceau était un irrécusable témoin de la lutte terrible qu'avait soutenue le guerrier. Quand il fut tant bien que mal regroupé, jetant sur son accoutrement un coup d'œil mélancolique et évaluant lui-même la quantité de coups de pied au cul que lui vaudrait cette tenue, il résuma ses appréhensions en une phrase lapidaire qui fit frémir jusqu'au cœur toutes les fibres de ses soldats. « Bon Dieu, ce que je vais être cerisé en rentrant !» Un silence morne accueillit cette prévision. Le groupe, évidemment, ne voyait pas d'objection à faire et, dans la nuit qui tombait, ce fut la sabotée lamentable et silencieuse vers le village. Que différente fut cette rentrée de celle du lundi! La nuit morne et pesante alourdissait leur tristesse. Pas une étoile ne se levait dans les nuages qui, tout à coup, avaient envahi le ciel. Les murs gris qui bordaient le chemin avaient l'air d'escorter en silence leur désastre. Les branches des buissons pendaient en seuls pleureurs, et eux marchaient, traînaient les pieds comme si leurs semelles eussent été appesanties de toute la détresse humaine et de toute la mélancolie de l'automne. Pas un ne parlait pour ne point aggraver les préoccupations douloureuses du chef vaincu. Et, pour augmenter encore leur peine, leur parvenait dans le vent du sud-ouest le chant de victoire des vélerans glorieux qui rentraient dans leur foyer. « Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien. » Car on était cabotin à Vélran et rouge à Longeverne. Au Grotilleul, on s'arrêta comme de coutume, et le bras rompit le silence. « On se retrouvera demain matin près du lavoir au second coup de la messe, » fit-il d'une voix qu'il voulait rendre ferme, mais où perçait tout de même dans une sorte de chevrotement l'angoisse d'un avenir trouble, très incertain, ou plutôt trop certain. « Oui, » répondit-on simplement, et Camus le lapidé vint lui serrer les mains en silence, tandis que la petite troupe, très vite, s'égrenait par les sentiers et les chemins qui conduisaient chacun à son domicile respectif. Quand le braque arriva à la maison de son père, près de la fontaine du Haut, il vit la lampe à pétrole allumée dans la chambre du poêle, et par un entrebâillement de rideaux, il remarqua que sa famille était déjà en train de souper. Il en frémit. Cette constatation coupait net ses dernières chances de ne pas être vu en la tenue plutôt débraillée, dans laquelle il se trouvait par le plus fatal des destins. Mais il réfléchit que, un peu plus tôt ou un peu plus tard, il fallait tout de même y passer. Et résolu à tout recevoir, stoïquement, il leva le loquet de la cuisine, traversa la pièce et poussa la porte du poêle. Le père de Lebrac tenait d'autant plus à l'instruction qu'il en était lui-même et totalement dépourvu. Aussi exigeait-il de son rejeton, dès que revenait la saison des collages, une application à l'étude qui vraiment ne se trouvait pas être en raison directe des aptitudes intellectuelles de l'élève Lebrac. Il venait de temps à autre conférer de ce sujet avec le père Simon et lui recommandait avec insistance de ne pas manquer son garnement et de le tanner chaque fois qu'il le jugerait bon. Ce ne serait certes pas lui qui le soutiendrait comme certains parents nouillottes qui savent pas y faire pour le bien de leurs enfants. Et quand le gars aurait été puni en classe, lui, le père, redoublerait la dose à la maison. Comme on le voit, le père de Lebrac avait en pédagogie des idées bien arrêtées et des principes très nets, et il les appliquait, sinon avec succès, du moins avec conviction. Il avait justement, en abreuvant les bêtes, passé ce soir-là près du maître d'école qui fumait sa pipe sous les arcades de la maison commune, près de la fontaine du milieu, et il s'était enquis de la façon dont son fils se comportait. Il avait naturellement appris que Lebrac jeune était resté en retenue jusqu'à 4h30, heure à laquelle il avait, sans broncher, récité la leçon qu'il n'avait pas su le matin. Ce qui prouvait bien que, quand il voulait, n'est-ce pas ? « Le rossard !» s'était exclamé le père. « Savez-vous bien qu'il n'emporte jamais un livre à la maison ? Foutez-lui donc des devoirs, des lignes, des verbes, ce que vous voudrez. Mais n'ayez crainte, et je vais le soigner ce soir, moi. » C'était dans cette même disposition d'esprit qu'il se trouvait quand son fils franchit le seuil de la chambre. Chacun était à sa place et avait déjà mangé sa soupe. Le père, sa casquette sur la tête, le couteau à la main, s'apprêtait à disposer sur un ado de choux les tranches de lard fumé coupées en morceaux plus ou moins gros, suivant la taille et l'estomac de leur destinataire, quand la porte grinça et que son fils apparut. « Ah ! Te voilà tout de même !» fit-il d'un petit air mi-sec, mi-narquois qui n'annonçait rien de bon. Lebrac jugea prudent de ne pas répondre et gagna sa place au bas de la table, ignorant d'ailleurs toutes les intentions paternelles. « Mange ta soupe !» grogna la mère. « Elle est déjà toute refouettée. » « Et boutonne donc ton blouson !» fit le père. « Tu m'as l'air d'un marchand de cab !» Le braque ramena d'un geste aussi énergique qu'inutile sa blouse qui pendait dans son dos, mais n'agrafa rien, et pour cause. « Je te dis d'agrafer ta blouse !» répéta le père. « Et d'abord, d'où viens-tu comme ça ?»« Tu sors pas de classe peut-être à ces heures-ci » « J'ai perdu mon crochet de blouson, » marmotta le braque, évitant une réponse directe. « Lasse-moi, mon doux Jésus !» s'exclama la mère. « Quel couillant que ces cochons-là ! Ça casse tout, ils déchirent tout, ils ravalent tout. Qu'est-ce qu'on veut devenir avec eux ?»« Et tes manches ?» interrompit de nouveau le père. « T'as perdu aussi les boutons ?»« Oui, » avoua le braque. Après cette nouvelle découverte qui, avec la rentrée tardive, décelait une situation particulière et anormale, un examen détaillé s'imposait. Le braque se sentit devenir rouge jusqu'à la racine des cheveux. Merde, ça allait rien barder. Viens voir un peu ici au milieu. Et le père ayant levé l'abat-jour de la lampe, sous les quatre perdus inquisiteurs de la famille, le braque apparut dans toute l'étendue de son désastre, aggravé encore par les réparations hâtives que des mains enthousiastes et bienveillantes, certes, mais trop malhabiles, avait achevé au lieu de le tempérer. « Ben nom de Dieu ! Ah salaud ! Ah cochon ! Ah vaurien ! Ah roussard !» grognait le père après chaque découverte. Pas un bouton à son tricot ni à sa chemise, des épines pour fermer sa braguette, une épingle de sûreté pour tenir son pantalon, des ficelles à ses souliers. « Mais d'où sors-tu donc, nom de Dieu de saligaud ?» gronda le braque père, doutant que lui, calme citoyen, eût pu procréer un garnement pareil, tandis que la mère se lamentait sur le travail continuel que ce polisson, ce bougre de gredin de cochon d'enfant, lui donnait quotidiennement. « Et tu t'imagines que ça va durer longtemps comme ça, peut-être ?» reprit le père. « Que je vais dépenser des sous à élever et à nourrir un salopieux comme toi, qui ne fout rien ni à la maison, ni en classe, ni ailleurs, même que j'en ai parlé ce soir à ton maître d'école ? Ah, je t'en foutrais, bandit. Je vais te faire voir que les maisons de correction, elles sont pas faites pour les chiens. Ah, Ross ! D'abord, tu vas te passer de souper. Mais vas-tu me répondre, nom de Dieu ? Ou t'es-tu arrangé comme ça ? Ah, tu ne veux rien dire. Crapule ! Ah oui, vraiment. Eh bien, attends un peu, nom de Dieu. Je veux bien te faire causer, moi. Et saisissant dans le fagot entamé de la cheminée un rein de coudre souple et dur, arrachant la chemise, jetant bas la culotte, le père de Lebrac administra son rejeton qui se roulait, se tordait, écumait, râlait, hurlait à faire trembler les vitres, une de ces raclées qui comptent dans la vie d'un môme. Puis, sa justice ayant passé, il ajouta d'un ton sec qu'il n'admettait pas de réplique. « Et file te coucher maintenant, et vivement, hein, nom de Dieu, et que j'entende quelque chose !» Sur sa paillasse de turquite et son matelas de paillettes, Lebrac s'étendit, las, intensément. Les membres brisés, le derrière en sang, la tête bouillonnante. Il se retourna longtemps, médita longuement, et s'endormit sur son désastre.